VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Un militaire de la force française Barkhane est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi au Mali, dans des circonstances accidentelles, a annoncé la ministre française des Armées. Le soldat appartenait au 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste à Toulouse, a précisé Florence Parly lors d'une conférence de presse consacrée à la mise en œuvre du plan de famille en faveur des armées françaises. Quelques 4500 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. RDC, la riposte à l'épidémie d'Ebola continue, déclarée depuis le 1er août dernier. Ebola a déjà fait au moins 139 décès sur les 217 cas signalés dans la région de Beni et en Ituri, dans le nord-est du pays. Le défi majeur pour les équipes de riposte sur le terrain reste l'insécurité et les équipes médicales doivent être escortées par l'armée et les casques bleus pour aller sensibiliser ou vacciner la population dans certains endroits. Reportage sur place, Charlie Kasereka, envoyé spécial de VOA Afrique à Beni.
Ici, par peur, certains villages ont été vidés par leurs occupants suite aux multiples attaques des ADF ou les Maï Maï. Difficile donc aux équipes de médecins ou des sensibilisateurs de traverser ces zones pour aller soit vacciner ou récupérer les cas suspects d'Ebola. L'autre défi, c'est des tensions sociales qui bloquent souvent les travaux des experts sur terrain. Dr Njolo Kotambwe-Baté, directeur de la riposte, explique sur VOA Afrique.
Chaque fois qu'il y a des affrontements dans la ville de Beni, le lendemain, les gens ne nous écoutent pas. Surtout s'il y a eu des morts, ils ne nous écoutent pas. Du tout. Il faut encore reprendre à zéro. Nous sommes toujours escortés. Cette semaine, au moins, c'était la première semaine où on n'a pas eu de problème. Si nous arrivons à en avoir comme ça 2, 3, 4, 5 autres semaines, les gens font le travail qui a donné des résultats partout. Pourquoi ça ne va pas donner ici?
Sur terrain, l'armée congolaise et les casques bleus de la mission onusienne en RDC sont sur tous les fronts avec des défis énormes aussi, mais restez pessimistes. Les porte-parole de l'armée à Beni, l'officier Marc Kazukai.
Les FADC se battent sur l'ADEF contre les Maïmaï. Il y a Ebola qui nous guette, qui nous inquiète, nous tous, nous sommes obligés de dégrainer quelques militaires pour les mettre à la disposition des équipes de riposte.
Un soutien régional est donc plus que jamais important, souligne les maires de la ville de Beni, qui explique que les phénomènes ADF perdurent à cause du relief montagneux et une forêt dense autour de la ville de Beni. Nyoni Bwanakawa, maire de ville.
Ces actes renseignent très bien que le mode opératoire de l'ennemi, c'est le terrorisme. Et puis, à partir du moment où l'on sait que les EIDF, c'est une mosaïque des nationalités qui se cache dans la forêt. Voilà là où nous avons toujours sollicité l'effort et l'intervention de la communauté internationale. Si aujourd'hui c'est Beniville qui paye les frais, demain ce sont tous les pays des Grands Lacs qui vont être embrasés par le phénomène EIDF.
Depuis 4 ans maintenant, l'armée fait face à ce qu'elle appelle une guerre asymétrique contre les ADF, créée à l'origine contre le président ougandais Yoweri Museveni. Depuis, les membres de ces mouvements ont érigé leurs bases arrière dans la région de Beni. La société civile locale et l'ONU les accusent d'avoir tué au moins 800 civils et kidnappé d'autres. Plus de 2 mois maintenant, cette région est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans son bulletin quotidien, des informations liées à la riposte datées du 16 octobre, le ministère congolais de la Santé renseigne que 139 décès ont été enregistrés sur les 217 cas signalés avec plus de 17 000 personnes vaccinées en province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri. Charlie Kasserec à VOA Afrique, Beni.
Toujours en RDC, Reporters sans frontières, SF a appelé les autorités congolaises à libérer immédiatement une journaliste arrêtée depuis une semaine, puis inculpée pour diffamation. Sylvanie Kyaku, journaliste travaillant pour l'hebdomadaire La Percée, a été interpellée par la police judiciaire du parquet de Kinshasa le 10 octobre, puis inculpée pour diffamation à l'encontre des responsables de la Banque commerciale du Congo, explique RSF dans un communiqué. La journaliste est détenue à la prison centrale de Kinshasa, faute de pouvoir payer sa caution fixée à 1 000 $. Elle se trouve en détention provisoire. Patrouille et barricade, situation toujours tendue aux Comores après des affrontements meurtriers entre l'armée et des opposants. Selon les autorités, le bilan est de 3 morts. Irénée Herman Ngo.
Pour la 3e journée consécutive, les forces de sécurité ont patrouillé à Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan. Hier, des tirs ont été à nouveau entendus. Des barricades tour à tour érigées par des opposants ont été démantelées par les forces de l'ordre. Les affrontements ont éclaté lundi lorsque des protestataires ont érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Mutsamudu, considéré comme un fief de l'opposition. Ils ont été démantelés par les forces de l'ordre. Mardi, les affrontements ont fait 3 morts, selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Le couvre-feu nocturne est toujours en vigueur sur l'île d'Anjouan. Les autorités accusent le parti Djoua de l'ancien président Abdallah Sambi d'être à l'origine des troubles. Les partis d'opposition réunis en coalition renvoient la responsabilité sur le gouvernement. Les Nations Unies et l'Union africaine ont appelé au calme et à la reprise du dialogue.
Les intempéries qui se sont abattues sur la Tunisie depuis mercredi ont fait au moins 5 morts et 2 disparus. Selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur, ces crues interviennent moins d'un mois après des pluies torrentielles qui ont fait au moins 5 morts au Cap Bon, dans le nord-est de la Tunisie. L'eau est également montée dans plusieurs villes, y compris dans la capitale, Tunis, et sa périphérie, où la plupart des écoles ont été fermées pour la journée. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes d'Haïti mercredi pour dénoncer la corruption et pour une majorité de contestataires pour exiger la démission immédiate du président Jovenel Moïse, bousculé lors d'une cérémonie officielle plus tôt dans la matinée à Port-au-Prince. Depuis plusieurs semaines, la colère populaire enfle en Haïti. Les manifestations se sont multipliées à travers les principales villes pour dénoncer l'inaction des autorités face à la corruption.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h06, dans 15 secondes, il sera 7h07. Des milliers de Honduriens ont poursuivi mercredi leur route à travers l'Amérique centrale dans l'espoir de gagner les États-Unis, défiant le président Donald Trump qui a menacé de représailles les pays qui laisseraient passer leur caravane. Comme au Guatemala ou au Salvador, les gangs font régner la terreur au Honduras où 68% des 9 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le Honduras est considéré comme l'un des pays les plus violents du monde avec un taux annuel de 43 homicides pour 100 000 habitants. En apprenant que des milliers de migrants misérables se dirigeaient vers les États-Unis, le président américain a menacé de couper les aides de son pays au Honduras, au Guatemala et au Salvador si les autorités ne mettent pas fin à cet exode. La presse turque a publié aujourd'hui des images retraçant les mouvements à Istanbul d'un officier des services de sécurité proche du prince héritier saoudien et présenté comme le chef de l'équipe d'exécution soupçonné d'avoir assassiné le journaliste Jamal Khashoggi. La publication de ces nouvelles images tirées des caméras de vidéosurveillance se vient au moment où la pression monte sur Riyad pour dévoiler le sort du journaliste critique porté disparu depuis qu'il s'est rendu au consulat saoudien à Istanbul. C'était le 2 octobre. La première ministre britannique Theresa May n'a pas exclu aujourd'hui une prolongation de quelques mois de la période de transition après le Brexit prévue pour fin mars 2019 afin d'avoir un peu plus de temps pour parvenir à un accord commercial avec l'Union européenne. Le négociateur en chef de l'Union européenne, lui, Michel Barnier, a suggéré de son côté que le Royaume-Uni puisse rester dans l'union douanière et le marché intérieur jusqu'à fin 2021, donc un an de plus que prévu initialement. Vous suivez, vous verrez en Afrique, des millions d'électeurs ont renoncé à s'inscrire. Des milliers de bureaux de vote resteront fermés. 10 candidats ont été tués malgré l'impréparation et les violences. L'Afghanistan votera cependant samedi pour élire ses députés coûte que coûte. Organisée avec 3 ans de retard, c'est la 3e élection parlementaire après 2005 et 2010 depuis l'intervention militaire américaine qui a chassé les talibans du pouvoir en 2001. Largement financée par la communauté internationale, elle est surtout considérée comme un test avant le scrutin présidentiel prévu en avril prochain. Et puis le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a promis aujourd'hui de sévir contre les responsables de deux tirs de roquettes en direction d'Israël la veille, dans un apparent effort pour se disculper et atténuer la menace ravivée d'une confrontation. Israël a ordonné aujourd'hui la réouverture des écoles autour de la bande de Gaza, foyer d'un nouvel accès de fièvre la veille. Dans l'enclave palestinienne, les détonations s'étaient tues mercredi après des frappes de représailles israéliennes contre une vingtaine d'objectifs qui ont fait un mort et trois blessés, mais les risques de confrontation restent d'actualité. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.